Pluriel gay. Pluriel, 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 pluriel. Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur Pluriel Gay. Ce soir, nous vous proposons une émission qui va se décliner en deux parties. La première partie est un reportage donc réalisé par Geoffrey Jordan, notre chroniqueur et humoriste bien connu à Lyon et ailleurs, sur le tournage de la web-série Les Engagés, début mars. Pendant deux semaines, une équipe de télévision est donc venue tourner cette série qui concerne le monde associatif LGBT. Cette série a été tournée à Lyon et sera diffusée au moment de la Marche des Fiertés, donc en juin prochain. Geoffrey Jordan s'est rendu sur place une journée, c'était le 8 mars dernier, pour recueillir des témoignages et des interviews de différents intervenants engagés justement dans cette série Les Engagés. Et puis la deuxième partie de notre émission sera dédiée un petit peu à la période actuelle préélectorale, puisque les élections se profilent. Dans quelques jours, nous allons voter au premier tour des élections présidentielles. Et Pluriel Gay se trouvait donc à Paris ce week-end au printemps des associations qui se tenait Espace des Blancs Manteaux, comme toutes les années à Paris, à la même époque. Nous avons interviewé les associations politiques qui étaient présentes. Ça, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Nous vous proposons donc dans un premier temps le reportage réalisé par Geoffrey Jordan sur le tournage de la web-série Les Engagés à Lyon.
Alors bonjour, qui es-tu, que fais-tu et quel est ton parcours ?
Alors moi je suis Claudius Pan, je suis comédien entre autres. J'écris aussi des romans, je peins, je fais de la musique. Mon parcours, donc j'ai fait une école de théâtre à Lyon quand j'étais assez jeune. Et après je suis parti pendant 2 ans dans une communauté d'artistes aux États-Unis, une communauté d'artistes queer pendant 2 ans là-bas. Et après j'ai voyagé pendant encore 2 ans et je suis rentré en France il y a à peu près 1 an et demi. Et là, du coup, j'ai repris le théâtre et les courts-métrages, les séries et tout ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait que, selon toi, c'est une série qui est différente ?
Bah, moi, pour moi, en tout cas, en tant que série française, j'ai l'impression que c'est la première qui soit vraiment LGBT. C'est la première fois que j'entends parler d'une série, en tout cas française, qui soit LGBT et qui soit en plus produite par France Télévisions, par Studio 4, tout ça. Donc, pour ça, je trouve ça important. On est quand même en 2017 et la France n'a pas encore sa série vraiment proprement LGBT. Donc, c'est bien. Et ensuite, j'ai l'impression surtout que c'est pas une série qui rentre dans les clichés. Et ça, c'est aussi important pour une série LGBT d'avoir une série qui soit assez large et qui ait un éventail de thèmes assez précis et ouvert et sans rentrer justement dans des images qu'on a déjà vues ou des propos ou des amalgames qu'on peut souvent faire face à la communauté LGBT.
Ton rôle dans le film, c'est lequel ?
Donc moi, c'est Bastien. Donc Bastien, il y a un travailleur du sexe qui s'est fait tabasser la gueule par des homophobes. Et donc, il n'y a aucune procédure judiciaire qui est mise en place parce que les policiers disent que forcément, c'était sa faute parce qu'il s'était mis en danger lui-même. Et du coup, il va à l'association du Point G, du coup, qui est l'asso LGBT de la série. Et là, du coup, ils vont l'aider pour essayer de rendre justice. Et entre-temps, le personnage principal va avoir une histoire avec ce personnage-là.
C'est quoi la chose la plus plaisante dans ce rôle ?
La plus plaisante dans ce rôle,
il n'y en a peut-être pas.
Si, il y en a, si, j'adore. Ben, je pense que Bastien, c'est une sorte de fort caractère. C'est un combattant qui a dû se battre pour en être là où il est. Et forcément, il y a quelque chose de très lumineux qui se dégage de lui, comme tout combattant, je pense.
Et la plus déplaisante, du coup ?
La plus déplaisante, tourner dans le froid, j'imagine.
Il y a des scènes extérieures ?
Il y a des scènes extérieures, oui. On a fait une hier, justement, jusqu'à 2h du matin. Et c'est un peu dur.
Et pourquoi vous avez accepté de faire partie du projet ?
Moi, en étant moi-même un homme homosexuel, j'aime bien avoir une parole qui soit importante. Et pour moi, l'art, ça permet justement d'être un vecteur de cette parole-là. Et du coup, d'avoir un rôle comme celui-ci, c'est pour moi génial de pouvoir avoir un personnage qui soit proche aussi de moi et de ce que j'ai envie de dire et de ce que j'ai envie de défendre.
Donc vous ressemblez au personnage dans la vie réelle ?
Un peu, oui, je crois qu'on est assez proche avec Bastien.
Est-ce que vous vous sentez porteur d'un message et si oui, lequel ?
Porteur d'un message, je pense que c'est un message de différence, que la différence est bien et qu'il faut aller au fond de sa différence et l'accepter, et que c'est comme ça qu'on crée un monde meilleur, je pense, et bienveillant.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous a apporté de personnel, cette série, chez vous ? Bah, vu que vous ressemblez au personnage, vous dites que vous ressemblez au personnage, je pense que la question est un peu bidon. Mais...
Non, parce que ça m'a apporté, c'est par rapport à l'équipe aussi. C'est toujours chouette de rencontrer une équipe comme celle-ci. Les comédiens sont géniaux, l'équipe technique, enfin tout le monde est... il y a vraiment une très belle ambiance et ça fait toujours du bien de rencontrer des gens comme ça. C'est un peu une grande colo.
D'accord. Vous avez des tatouages, je me permets. Ils sont significatifs ou est-ce que...
Ils sont significatifs, oui.
D'accord. Est-ce que je peux vous demander en quoi ?
J'ai vécu pendant longtemps avec des vagabonds sur la route et ça faisait partie d'une sorte de rituel. Enfin, c'était des rituels, pas forcément initiatiques, mais qui avaient une représentation un peu spirituelle. Voilà. Merci.
Donc je demandais de te présenter, qui es-tu, que fais-tu et ton parcours.
Alors je m'appelle Déborah Gay, je suis thésarde, doctorante en sciences de l'information et de la communication à Toulouse 2, j'ai 30 ans. Mon parcours, j'ai fait Sciences Po, école de journalisme, 5 ans de journalisme en radio et en presse écrite. Et là ça va faire depuis un an quasiment que je suis la série pour ma thèse qui est sur comment en gros une web-série sur la thématique principalement LGBT a pu voir le jour au sein de France Télévisions.
Voilà. Alors pourquoi à ton avis le format web plutôt que le format télé? Pourquoi la décision a été prise sur ce format-là pour cette série?
En fait, c'est hyper complexe. Le truc, c'est que Studio 4 est vraiment une entité à part de France Télévisions. Et c'est le scénariste qui a envoyé directement son scénario à France Télé parce qu'il ne trouvait pas de producteur. Parce que normalement, on doit passer d'abord par le producteur démarche les chaînes. Donc Studio 4 a adoré et a tout de suite dit « Ok, ils n'ont quasiment aucun lien avec la télé ». Mais Sullivan, je pense que tu interviewera, dit, c'est qu'en gros, c'est parce que aucun producteur a voulu défendre le sujet, qu'il n'a pas réussi à le défendre. Par contre, le fait que la chaîne ait tout de suite dit OK, c'est parce que c'était du web, qu'ils acceptaient directement les scénarios, qu'ils ont dit OK, bingo, cherche-nous un producteur, on l'a fait.
D'accord. Alors, c'est une énième production cinématographique sur ce thème. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est une série qui est différente?
Alors, déjà, c'est pas du cinéma. Et le fait que ce soit de la télé, effectivement, je ne sais pas si je peux rappeler, mais ce que te disait Claudius était hyper intéressant. C'était le fait que justement, ça soit une des premières séries LGBT en France, alors que Queer as Folk a quasiment plus de 20 ans. C'est assez emblématique, on va dire. Et donc en ça, je pense que c'est assez novateur. Après, je crois savoir qu'il y a plusieurs séries, notamment chez Arte, qui sont en cours aussi. Donc il y a peut-être aussi ce qu'on appelle un air du temps, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de séries sur ces thématiques-là qui se développent. Celle-là est particulière parce que c'est vraiment sur le militantisme et ce que ça apporte à l'individu et comment s'assumer. C'est sur des jeunes, c'est-à-dire que c'est pas sur des adultes qui ont déjà fait leur choix. Mmh. Donc en ça, je trouve que c'est assez novateur. Après, on verra bien si on est d'accord, mais oui.
Et en travaillant sur cette thèse, est-ce que vous vous sentez porteur d'un message?
Forcément, il y a forcément une part de militantisme. Ça, parce que déjà, travailler sur la question du genre, de l'LGBT, dans le milieu universitaire français, c'est quand même c'est compliqué, parce qu'on peut voir qu'au niveau politique, c'est souvent décrédibilisé. Si on écoute toutes les déclarations de, pour ne pas les nommer, Christine Boutin et d'autres gens qui disent que les gender studies, ça n'existe pas et qu'on veut... Donc en ça, oui, forcément. Parce que je pense que c'est important que on a quasiment plus de 20 ans de retard sur les études anglo-saxonnes. Donc je pense que les universitaires français, l'université française a aussi son mot à dire, mais son domaine d'études spécifiquement français à défendre et à étudier. Et donc c'est une chance d'être là, quoi.
Et cette série, elle apporte quoi? Elle a changé quoi pour vous personnellement? En plus, ça fait un an que vous travaillez dessus.
Personnellement, déjà, a montré qu'il y avait... après, personnellement... Ça reste un sujet d'étude, mais grâce à ça, j'ai pu découvrir plein de savoirs, on va dire, parce que forcément, j'ai lu plus de bouquins, j'ai la chance de me dire, je travaille là-dessus, donc j'ai le temps de lire ça, je prends le temps de lire tel auteur, pour mieux comprendre les mécanismes. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, en France, on est quand même sacrément en retard. Et donc, ça m'a donné cette chance-là, ça m'a aussi donné la chance de rencontrer des tas de gens qui... En fait, on se rend compte qu'il y avait une attente. Il y avait une vraie attente de cette série-là. Il y avait une vraie attente de gens, majoritairement, pas forcément homo, mais de sexualité minoritaire. Je ne sais pas trop comment dire, pour inclure un maximum de gens, qui attendaient aussi ou ça comme rôle, ou ça comme message. Et je pense que ça, c'était hyper intéressant à voir. Mais je pense que surtout, personnellement, ça va juste... c'est hyper compliqué parce que je travaille dessus, donc je suis pas acteur, donc c'est ta question est votre question, pardon, est vraiment complexe. Mais je pense que c'est surtout que ça m'a donne la chance d'avoir un sujet d'étude très ancré dans le réel. Je ne travaille pas sur, des grandes idées. Non, là, c'est concret, c'est un cas concret, ça a vraiment une implication et ça a forcément aussi ou des réticences ou des aides qu'on n'imaginait pas. Je veux dire, la maison de production, c'est à Sarté, c'est ce qu'on fait vestiaire, il y a forcément aussi un sens. Enfin, voir tout comment ça se mélange et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout comment ça va être reçu, comment ça va être développé. Mais je pense que ouais, c'est surtout ça, c'est pouvoir être sur un cas non seulement concret, mais qui a un impact réel.
On se met en place pour la répétition, s'il vous plaît. Allez. Attends, il n'y a pas de son sur les retours, sur les tactums là, des réalisateurs.
Moi, je suis directeur de production sur cette série Les Engagés, qui est donc la première saison de cette série de 10 épisodes en 10 minutes. Voilà, qui raconte, je crois que, on vous l'a dit déjà tout à l'heure, la vie d'une association LGBT, avec quand même de nombreux personnages, puisqu'il y a 24 rôles. Et beaucoup de rebondissements dans cette histoire que je trouve aussi bien drôle, émouvante, romanesque, touchante. Enfin, et les personnages eux-mêmes très, très bien, très différents et très bien définis. Mais moi, personnellement, ce dont je m'occupe, c'est la gestion de la production. Voilà, au service du producteur qui est Astarté et compagnie, Sophie Deloche. Baptiste Rinaldi, que vous avez rencontré.
Alors, c'est une énième production cinématographique télévisée sur ce thème. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette série est différente des autres ?
Alors, ce qui est particulier pour nous, parce que moi, encore une fois, j'espère que Sullivan va venir, l'auteur, vous en parler, parce que je m'occupe essentiellement de tout ce qui est de la responsabilité financière, de la gestion, etc. Mais malgré tout, je m'intéresse beaucoup au sujet. Ce qui est assez nouveau, c'est que c'est une série web. Et que généralement, les séries web, c'est des petits tournages de 2-3 jours. Et là, c'est une véritable fiction, puisqu'on a quand même 20 jours de tournage, avec un petit budget quand même, même si c'est du web. Et on est un peu entre deux chaises, et c'est ce qui rend le projet intéressant, parce que c'est quand même une série pour le web, avec une diffusion sur Studio 4, qui est une filiale de France Télévisions, qui nous a donné un petit peu d'argent, qui nous a permis de faire les choses un peu convenablement vis-à-vis de l'équipe et des comédiens, mais on est quelque chose qui, pour le moment même, pour le CNC, le Centre du Cinéma, est encore un peu bâtard, parce qu'en principe, les projets pour le web se font absolument sans argent, et durent quelques jours, et c'est formidable, des gens bénévoles, etc. Ou alors c'est vraiment des fictions, comme j'en ai fait beaucoup pour toutes les chaînes de télé à Paris, ce qu'on appelle les fictions lourdes, avec des gros budgets, voilà. Et ce qui se fait de façon très traditionnelle. Là, on est ni l'un ni l'autre, ou on est les deux en même temps, et c'est ça qui est intéressant aussi.
On se bat,
tout le monde se bat. Moi d'ailleurs, je suis venu de Paris pour former une équipe entièrement lyonnaise de jeunes qui avaient envie que le sujet intéressait, qui avaient envie de se battre pour ça, aussi bien en mise en scène, en régie, en son, en lumière, en décoration, etc. Que ça a passionné, parce que je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a ce projet passionnant, j'ai un peu d'argent, mais j'en ai pas beaucoup, donc je pourrais pas vous payer les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de préparation, mais je crois qu'on peut faire un très beau film, et si jamais on fait une belle première saison, on risque d'avoir une seconde saison après, un peu mieux financée, dans laquelle on se retrouverait tous avec un peu plus de confort, et c'est ce qu'on espère tous, voilà.
Vous serez plus convaincant.
D'autant plus que la seconde saison, j'espère que Sullivan va pouvoir vous rejoindre, qui est très talentueux, qui a écrit cette première saison, elle est déjà entièrement dans sa tête, elle est déjà écrite, voilà. Il faut après trouver les moyens qu'il y ait le maximum de gens qui regardent, voilà, pour qu'il y ait le maximum d'intérêt qui se crée au-dessus de ça, parce que si on veut, il y a deux choses pour arriver à faire une saison 2, c'est effectivement que faire une saison 1 de qualité, mais il faut aussi que, comme cette saison est avant tout aussi pour le web, même s'il y a une diffusion télé, c'est réussir à ce que un maximum de gens regardent cette saison 1, aient envie de la regarder, regardent les 10 épisodes, et donc on va faire un maximum de promotion autour de tout ce qui tourne les associations ou la vie gay, etc.
Vous occupez de la diffusion aussi ? Pardon ?
Vous vous occupez de la diffusion aussi ?
Non. Baptiste, que vous avez croisé, mais qui est reparti à Paris, s'en occupe, auprès de Baptiste Rinaldi, auprès de Sophie Deloche. Je sais que l'idée, c'est de que la diffusion se passe juste au commence, en tout cas, au moment de la Gay Pride cette année. Voilà, qu'on profite de ça. Il y a aussi il y aura une diffusion ici au centre LGBT de Lyon, dans lequel on a tourné. L'écran mixte que vous connaissez certainement de Lyon est très intéressé pour faire une projection aussi, on verra, mais qui sera plutôt peut-être l'an prochain, au moment où il y a leur festival, voilà, et qui peut aider aussi à ce que l'organisation de la seconde saison aussi, voilà.
Et l'autre, la base de scène, alors
Merci. Très bon cul. Mais je suis pas figurant aujourd'hui alors. Ah
merde. Ouais, mais ça n'empêche que c'est bon, bah c'est con.
Non, c'est une journée, c'est ça.
Ouais, enfin j'étais une figuration lundi soir.
Bonjour, alors je m'appelle Mehdi Mescar, j'ai 21 ans. Et j'interprète le rôle d'Hicham sur la série Les Engagés qu'on tourne à Lyon. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé à jouer au théâtre en Italie quand j'avais 10-11 ans. En fait, parce que mon père, il avait une passion, c'était la magie, alors j'ai commencé à monter un peu sur scène avec lui. Et puis voilà, j'ai fait du théâtre amateur et quand je suis arrivé en France à 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir un petit truc de silhouette dans le film de François Ozon, Dans la maison. Et voilà, après ça, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à passer des essais, des castings et voilà, à faire des pièces, un peu moins, mais voilà, beaucoup de castings et puis des courts-métrages, des longs-métrages et des séries.
Alors, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de productions sur ce thème, le thème LGBT, mais il y en a eu beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que, selon toi, elle est différente, cette série ?
Alors déjà, je pense que cette série, sa qualité, c'est que c'est une série qui donne vraiment un aperçu de la communauté LGBT. Même si évidemment ça suit le personnage d'Hicham et qu'on découvre son ouverture tout au long des épisodes, c'est vraiment une série qui donne un vrai aperçu de la communauté LGBT sans forcément des clichés, parce que Sullivan, l'auteur, il a travaillé dessus pendant 7 ans, il a vraiment milité au sein des associations LGBT, donc il connaît vraiment le milieu et voilà, il a réussi à retranscrire en fait on va dire l'ambiance du milieu LGBT de manière assez réelle, en fait.
C'est compliqué, mes questions.
Oui.
qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant dans ton rôle ?
Qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant ? C'est assez plaisant de voir qu'il y a une vraie évolution, en fait. Une vraie évolution de...
Mentale,
mais aussi physique, une ouverture au monde. Voir comment ce personnage qui se retrouve enfermé dans son petit... dans son petit appart, chez ses parents, arrive à s'ouvrir et à se lâcher au monde.
Et la plus déplaisante ?
Et la plus déplaisante, qu'est-ce que... La plus déplaisante...
Par exemple, embrasser un garçon ?
Ah non, c'est-à-dire, si c'est déplaisant, ça...
En tant qu'acteur, sur un rôle qui n'est pas forcément le tien dans la vie réelle ?
Non, puisque c'est un rôle, mais c'est pas... En tant qu'Hicham, c'est très plaisant. Après, en tant que Mehdi, je n'embrasserai pas de garçon. Enfin, si ça arrive en soirée, j'en sais rien. Je reste ouvert à la question, comment dire ? J'adore ta question. Non,
on allait forcément te la poser un jour. Hein.
Ouais, non, c'est clair, c'est clair.
Ne serait-ce qu'après la diffusion du film.
Oui. Non, c'est pas déplaisant, puisqu'en tant qu'Hicham, en tant que personnage, évidemment, je découvre ça, et même en tant qu'être humain, je découvre ça, c'est quelque chose que je connais pas particulièrement. Et donc, non, c'est pas forcément déplaisant. Non.
Et pourquoi tu as accepté de faire partie du projet et... Est-ce que tu te sens porteur d'un message ? En plus, tu es jeune, tu as 21 ans, c'est ça ? Voilà, ouais, donc par rapport à ton âge, justement, est-ce que tu penses à 21 ans, à être porteur d'un message en ayant accepté ce rôle ?
Alors, évidemment que c'est un plaisir de participer à un projet qui a aussi une envie de bouger les consciences, d'ouvrir les esprits. Et oui, je suis très content j'ai l'impression qu'avec ce projet, je peux aider d'une manière ou d'une autre à changer les choses, à ouvrir... Un peu, oui, les esprits.
Ok, c'est bien. On change de séquence.
Alors, je vais te demander de te présenter et puis ton CV, en fait, un peu ton parcours.
Je m'appelle Claire, je suis régisseuse adjointe sur le projet. Et ben, ça fait 10 ans que je fais de la régie et que ça fait 3 ans que je travaille à Lyon. Et j'ai rejoint ce projet, on m'a appelé en décembre et j'ai commencé en janvier à travailler sur le projet.
Et pourquoi avoir accepté ce projet justement? Tu peux dire parce que tu n'avais pas le choix.
Parce qu'il faut bien travailler, parce que ça me plaisait de travailler avec le chef avec lequel je travaille, qui s'appelle Pierre Adam, que je ne regrette pas cette rencontre. Et puis ça se passait tout à Lyon et c'était pratique.
Qu'est-ce qui fait que cette série est différente? Qu'est-ce qui fait qu'elle serait différente au final?
Alors, c'est la première fois que je travaille pour une web-série. Après, c'est pas bien différent. Enfin, le travail qu'on a à faire, c'est pas différent d'une fiction pour la télévision, pour le cinéma. Les tâches à réaliser sont vraiment les mêmes.
Qu'est-ce qui est le plus plaisant et de déplaisant, justement? Plaisant d'abord.
Je sais pas si je dois le dire. Plus plaisant, l'équipe est très sympathique. Et je pense que c'est dû au côté déplaisant, qui est que le budget est très restreint et qu'il n'a rien de commun avec un budget de fiction télé ou d'un long métrage. Même les longs métrages fauchés ont plus d'argent que nous. Mais du coup, le côté plaisant, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde a accepté ce projet en connaissance de cause et les relations sont très bonnes sur le plateau.
Par exemple, moi qui étais figurant lundi soir, c'était très étroit, vous avez très peu de place en fait pour travailler.
Oh, ça arrive assez souvent, ouais. Voilà, de se retrouver dans des décors très, très petits où on est un peu les uns sur les autres.
C'est formateur.
Je dirais qu'on a l'habitude. C'est une contrainte d'avoir des petits lieux. Mais je sais pas trop quoi répondre à la question.
Est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus personnellement?
Oui, les relations humaines, c'est pour ça que je fais ce métier. Ouais. Donc des nouvelles connaissances, pérenniser des relations de travail que j'avais déjà. Et puis, voilà.
Merci.
Allez, moteur. Action.
Non, je te demandais de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la série? Et ton parcours?
Donc je m'appelle Sylvain Lepostec, j'ai créé et écrit cette série Les Engagés. Je suis scénariste depuis déjà quelques années, j'ai écrit quelques épisodes de série, notamment une série qui s'appelle Falco. J'ai été formé à Berlin dans une formation qui s'appelle Serialize, qui est un programme européen. On était 12 scénaristes producteurs venus de toute l'Europe. Voilà un peu.
D'accord, alors qu'est-ce qui fait selon vous que cette série est différente?
Déjà, même s'il y en a eu pas mal, en France, il n'y en a pas eu tant que ça. Bon, en fait, en financier, il n'y en a même pas eu du tout. Donc, on a certes beaucoup de retard, mais on a un manque à combler. Je pense que notre approche des questions LGBT n'est pas exactement la même que l'approche anglo-saxonne. Et du coup, on a un vrai point de vue à défendre, il me semble, à ce niveau-là. On parle de la question sous l'angle de militants, des militants de terrain, des militants associatifs, ce qui a été relativement peu traité jusqu'ici, même si en fait au moment où on tourne là, on est en train de diffuser aux États-Unis When We Rise sur ABC, qui raconte toutes les années du militantisme homosexuel aux États-Unis, donc c'est un truc un peu d'époque sans doute aussi, mais voilà, je pense qu'on a un angle qui est relativement différent.
La chose la plus plaisante dans ce rôle de scénariste est laquelle?
Surtout sur ce projet-là et de la manière dont il se passe, j'avoue que c'est vraiment super agréable d'être ici et de le voir prendre forme. C'est un projet que j'ai porté pendant longtemps, parce que j'ai écrit une première version du pilote en décembre 2010. Ah oui. Et voilà, il m'a fallu beaucoup d'années pour convaincre des gens autour de moi de partir dans cette aventure. Donc du coup, de l'avoir fait depuis un an et demi, et de voir maintenant qu'on est ici à Lyon, qu'il y a une grosse équipe sur le tournage, qu'on tourne, qu'on avance, qu'on filme, que les personnages prennent vie, ça c'est vraiment vraiment très agréable.
Et la plus déplaisante, du coup? S'il y en a une.
C'est ça, à part d'avoir été grosso modo pendant 4 ans tout seul, avec mon bâton de pèlerin, à essayer de convaincre les gens que ça pouvait se faire. Sinon, le reste, ça a été plutôt agréable.
Qu'est-ce que cette série vous a apporté personnellement, a changé chez vous?
Je sais pas si elle a changé des choses chez moi. Moi, j'ai vécu à Lyon plusieurs années, entre 2003 et 2008, et pendant ces années-là, j'ai milité dans les associations. Et du coup, écrire sur ce sujet, même une histoire de fiction totalement, avec des personnages inventés, mais dans un univers que j'ai bien connu, c'était une façon de parler des paradoxes de l'engagement, en fait, de la sensation que j'ai qu'on a besoin de gens engagés aujourd'hui plus que jamais, parce que les choses vont pas forcément super bien, Mais en même temps, c'est très dur d'être militant parce qu'en gros, j'ai l'impression que 98% de l'énergie qu'on dépense est gaspillée dans des choses inutiles ou des luttes politiques internes qui font pas bouger la société ou qui font rien avancer. Et du coup, la série, c'est une façon pour moi d'argumenter avec moi-même sur ce paradoxe-là.
Alors pourquoi le format web plutôt que le format télé? Est-ce que c'était un choix du réalisateur? Est-ce que c'est un média qui est plus efficace ou est-ce que c'est les diffuseurs télé qui étaient trop frileux?
À la base, c'est un projet qui avait été écrit pour la télé traditionnelle, comme on dit, la télé linéaire. Effectivement, moi, j'ai rencontré beaucoup de producteurs autour de ce projet qui plaisaient plutôt, mais on me disait tout de suite, c'est super bien, mais ça, on te l'achètera jamais, parce que nous, on nous l'achètera jamais. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses dont on peut parler? Et c'est vrai que ce qui a finalement permis à ce projet de naître, c'est la naissance, il y a à peu près 2 ans maintenant, de projets vraiment financés sur le web, à la fois là où on est, chez Studio 4, qui est la branche web de France Télévisions, et puis il y a d'autres offres concurrentes, notamment celle de Canal+, qui s'appelle Studio+, et d'autres qui sont en cours de création, où il y a des séries comédies ou dramatiques relativement bien financées qui commencent à apparaître et qui permettent du coup d'aller défricher d'autres terrains en termes à la fois d'histoire et de sujets comme celui-ci, et aussi dans la manière d'écrire, parce que c'était le second problème. Moi, j'avais envie d'avoir une écriture proche des personnages, qu'il n'y ait pas de cadavre au début, pas d'enquête au milieu, et voilà. Et ça, c'est encore plus difficile. Donc là, on peut être sur un vrai drame de personnages où les conflits intérieurs de nos personnages et ce qu'ils traversent sont finalement, c'est ça qui est mis au premier plan de la série et pas les incidents du plot, de la narration.
Très bien.
Coupé.
C'est coupé.
Tout va bien. Alors, je vais vous demander de vous présenter, même si moi je sais ce que vous faites sur le tournage. Votre prénom, votre nom, un peu votre parcours aussi.
Alors, Maxime Potra, co-réalisateur avec Jules Tenier. Mon parcours, j'ai fait beaucoup de programmes courts, de courts-métrages, de programmes courts en télé, beaucoup de web-séries aussi, du théâtre. J'écris, je réalise, un petit peu de clips. Voilà, donc et puis là je commence du coup à faire des fictions un tout petit peu plus longues, on va dire.
D'accord, c'est une énième production sur ce thème LGBT. Qu'est-ce qui fait que selon vous c'est une série qui est différente des autres?
Alors très bizarrement, quand tu viens de dire énième, justement j'ai pas la sensation qu'il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui va faire la différence sur cette série? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que c'est pas une série manichéenne. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est assez intelligente dans la vision qu'elle propose de l'être humain. Voilà, ça montre que l'être humain a des bons côtés, des mauvais côtés, qu'on est tous des fois un petit peu cons, un petit peu bons, et qu'il n'y a pas de juste vérité, c'est des fois souvent un espèce d'entre-deux. Et voilà, ça me plaisait. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que c'était pas que sur l'homosexualité, c'était aussi sur la politique. En fait, sur les thèmes de société, il y a plusieurs thèmes que j'aime beaucoup et que j'ai envie de traiter pour faire évoluer les choses. Je dirais qu'il y a effectivement l'homosexualité, le racisme, la place de la femme, la politique, l'économie. Et donc là, c'était une série qui traitait deux sujets, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup.
Pourquoi ces deux acteurs principaux?
Pourquoi? Ça a été assez évident, en fait. Quand tu fais passer des castings, malheureusement, il n'y a pas 30 000 personnes qui peuvent correspondre à un rôle. Il n'y a pas d'ordinateur où on dit, tiens, je veux tel physique, tel trait de caractère, tel type de jeu, où t'as 30 comédiens qui sortent de l'ordinateur. Non, et en fait on a fait passer des essais, et assez rapidement c'était des évidences en fait, par leur physique, par ce qu'ils pouvaient apporter par rapport au personnage, voilà. Et puis même, faut dire aussi un truc, c'est que on a donc un personnage rebeu de 20 ans, 21 ans qui doit jouer un homosexuel, et ben très dur à trouver.
Ouais.
Très dur à trouver.
Et le sens est double aussi un peu sur son personnage.
Oui, même si je trouve que là encore c'est assez intelligemment traité, c'est-à-dire que finalement le fait qu'il soit rebeu, c'est juste une profondeur du personnage, ça fait partie du personnage, mais ce que j'aime bien justement, c'est qu'on va pas appuyer et jouer sur le fait qu'il soit rebeu. Et je trouve ça, c'est une évolution, parce que dans notre société on a encore à se dire, tiens, on va mettre tel personnage de couleur pour faire évoluer les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on ne voit plus la couleur et qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que faire un film, c'est militer aussi un petit peu. même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, ben, déjà on y croit. Peut-être que c'est un peu très idéaliste, mais c'est quand même intéressant. Et puis on se dit que ça peut faire évoluer les choses. Je pense que le cinéma fait évoluer les choses. Je pense que l'art fait évoluer les choses. Donc voilà, c'est une petite façon de mettre sa petite pierre à l'édifice. Si demain... on peut éviter d'avoir des manifestations contre le mariage, que les homosexuels ne se sentent pas différents, et ben on aura un peu gagné ce combat, quoi, qui je pense mettra encore 20-30 ans. Je pense qu'on a encore pris un petit bout de temps, malheureusement.
Pourquoi avoir pourquoi le format web et pas le format télé, à votre avis?
Mais parce que le format télé, je pense que la télé n'est pas complètement prête à accepter ces sujets-là. Le web permet aussi plus de créativité, plus de liberté artistique, donc ça c'est très intéressant. Et puis c'est un format et un support qui est vraiment en train de se développer, donc c'est assez c'est un peu l'avenir, donc c'est assez excitant d'être un peu au début d'un avenir.
La chose la plus déplaisante dans votre rôle, c'est laquelle?
La chose la plus déplaisante, bah, par exemple quand on travaille avec la figuration, je trouve qu'on ne connaît pas les prénoms des gens et on dit lui là, le mec là, avec sa mèche, le mec avec son blouson, le mec machin, et je trouve que des fois je me dis à la place des figurants, c'est pas très très respectueux. Voilà, donc bah, après ça c'est pas, je pense qu'ils le savent, ils le comprennent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de déplaisant? On fait des énormes journées, on a quand même la sensation de tirer sur l'équipe et de fatiguer les gens. Voilà, donc on essaye de respecter un peu l'équipe, mais il faut trouver le juste milieu entre faire un bon film et ne pas abuser des heures et des heures. Voilà, que ce soit confortable. C'est surtout très fatigant, en fait.
D'accord. Et la chose la plus plaisante, du coup?
La chose la plus plaisante, moi, je trouve, dans ce métier de réalisation, c'est quand t'es au montage et que t'es en train de monter ta scène et que tu te rends compte que ça marche. Et là, c'est assez jouissif, en fait. Tu te dis, putain, mais c'est génial, ça marche. Et quand tout d'un coup, un truc que t'as dans la tête et que t'arrives à le voir et à pouvoir le montrer aux gens... Il y a un vrai, vrai plaisir à ça. Puis après, voilà, moi j'adore le plateau et travailler avec l'équipe, c'est aussi très plaisant, quoi.
C'est pas trop compliqué d'être dans un petit milieu comme ça, que ce soit tout petit, en fait?
Si, c'est compliqué.
Il y a d'autres décors, mais celui-là particulièrement.
On fait que des décors petits et compliqués. Okay. Donc, non, c'est compliqué, on tourne de nuit et tout ça. Donc ça, c'est pas forcément évident, ouais.
Ok, bah bon courage alors pour la suite du tournage. Merci.
Moi, je...
À présent, le reportage réalisé le week-end dernier au Printemps des associations. Nous étions, donc nous allons entendre dans le désordre HES, le groupe donc Homosexualité et Socialisme, le groupe EELV, enfin une représentante, une militante des écologistes donc, et puis également Guélib, qui était aussi présent, Centre Ego, et je pense que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel. C'était, il y avait bien sûr la France Insoumise de Mélenchon, voilà.
Donc je suis au Printemps des associations à Paris, des associations LGBTI, etc., on peut dire. Je suis en compagnie de Claire, qui est donc écologiste et partie du groupe, du parti politique EELV.
Alors, Europe Écologie Les Verts.
Europe Écologie Les Verts, c'était mieux quand on pouvait dire Les Verts.
Oui, on peut dire, on va dire Les Verts.
On va dire Les Verts, c'est plus rapide.
C'est plus quoi, est-ce que ça veut, ça veut dire
tout
ce que ça veut dire.
Ça veut dire tout à fait ce que ça veut dire. Quand on interroge quelqu'un, un écologiste, une personne faisant partie donc des Verts, ça va de soi, les droits LGBT vont de soi, LGBTI vont de soi, la PMA, même la GPA, c'est pas un problème pour Les Verts.
En ce qui me concerne, non. Pour certains, oui, ça peut... Comme on est toujours un peu divisé sur nos votes et sur nos opinions, soutenir les gens qui pratiquent une orientation sexuelle dite, considérée comme alternative, ce n'est pas un problème, au contraire. Avoir un enfant sans parents des deux sexes pose pour certains un problème si ça passe par une maternité, en particulier par quelqu'un d'inconnu ou dans un autre pays, machin. Moi, je pense que les enfants, c'est comme le reste. Chacun fait comme il peut et comme il veut.
Au niveau des prises de position officielles du parti des Verts, donc, quelle est la position sur la PMA et la GPA ?
On est tout à fait officiellement pour la PMA. Et on est tout à fait non positionné, parce qu'un peu clivé, sur la GPA.
D'accord. Et accessoirement, sur la dépénalisation du cannabis aussi, vous êtes pour ?
Ah, nous sommes tous, sauf exception, pour.
Et donc cette année, les Verts aux élections ne présentent pas de candidat. Les Verts sont alliés à Mont. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix ?
Je pense que depuis que j'entends Benoît Hamon parler écolo, je pense que c'est un très bon choix. Mais je crois que depuis 2014, il était très proche des écologistes, puisqu'il était dans le même gouvernement que Cécile Duflot, et que j'ai lu dans la presse par ailleurs, en 2014, qu'ils déjeunaient ensemble tous les jeudis midi avec Christiane Taubira et Arnaud Montebourg. Cécile Duflot et Benoît Hamon.
Et pourquoi pas Mélenchon, par exemple ? Parce qu'il a un positionnement très écologique aussi, Mélenchon.
Mais je crois qu'ils ont déjeuné aussi à certains moments. Et je pense que c'est une question de score. Mélenchon n'a absolument rien à perdre à soutenir sa candidature. Et s'il peut passer devant le candidat socialiste, c'est bon pour son parti.
Merci Claire pour votre attention et d'avoir répondu à mes questions.
Et bonjour à tous les Lyonnais. Une ville formidable.
C'est vrai, je confirme.
Vive la décentralisation.
Je suis en compagnie de Léni, secrétaire général de HES au niveau national. C'est ça, d'accord ? HES, donc homosexualité et socialisme. Or, quand on parle de socialisme, on a l'impression qu'il y a un divorce quand même entre les LGBT et le Parti Socialiste, parce que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Vous devez entendre ça régulièrement. On a l'impression que la communauté LGBTI et les revendications qui ont été portées par la communauté ont été un petit peu bafouées par le candidat, ce qui était le candidat Hollande, qui est devenu le président de la République maintenant.
Il y a un vrai point de divorce qui se situe au niveau de la PMA, clairement, qui a été revendiqué pas seulement par le président, par le candidat et ensuite le président François Hollande, mais par des ministres, par plusieurs ministres, par des présidents de groupes parlementaires, par des responsables socialistes divers qui ont à plusieurs reprises dit la PMA, mais on va la faire. La PMA, c'est prévu. La PMA, c'est bon, c'est prêt, on l'a fait. Et elle n'est jamais arrivée. Et ça, c'est même pour HES, qui s'est élevé à plusieurs reprises contre ça, c'est une décrédibilisation de la parole politique, quel que soit le camp qui puisse dire cette phrase-là, ou quelles que soient les positions qui puissent être portées, qui puissent être annoncées pour ne pas être portées finalement. C'est un vrai divorce qui se fait au niveau citoyen, simplement. Et au niveau des LGBT, on a une question qui est assez bizarre, c'est que les LGBT se sentent parfois, à juste titre, les laissés pour compte de ce quinquennat, alors que, paradoxalement, on a eu les progrès les plus forts depuis 5 ans pour un pays au niveau européen. C'est du jamais vu. Il y a un organisme qui s'appelle l'ILGA, qui est l'International Lesbian and Gay Alliance, qui mesure chaque année, selon des critères qui régulièrement changent, les positions des différents pays de l'Union européenne et d'Europe sur les droits pour les LGBT. En 2012, la France était 23e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on est passé au numéro 9 à la fin 2016, ce qui ne prend toujours pas en compte non plus le changement qui s'est fait au niveau de la loi justice 21e siècle l'été dernier. C'est le changement de sexe pour les personnes trans qui a été simplifié et qui est devenu désormais libre, démédicalisé et dépsychiatrisé. Et il y a tout un tas de propositions qui ont été portées, qui ont été votées, sur lesquels ce gouvernement, le parti, le président, le premier ministre n'ont pas communiqué, parce qu'on a quand même eu aussi affaire à des gens qui n'ont pas réussi à assumer ces choix-là ou qui n'ont pas réussi à les publiciser, et ce qui rend d'autant plus complexe la relation avec le public LGBT. Mais il y a clairement eu une incompréhension dans la façon de communiquer. Hollande a annoncé le mariage pour tous durant toute sa campagne, ça a été assumé comme un élément marquant de la campagne présidentielle 2012 comme la peine de mort, l'abolition de la peine de mort avait pu l'être en 1981, et elle n'a pas été assumée, elle n'a pas été, cette proposition-là n'a pas été politiquement défendue jusqu'au bout. On a effectivement, avec Macron, pour moi c'est le calque parfait de ce qu'a fait Hollande devant les maires en parlant de clause de conscience, on a une personne qui voudrait éventuellement s'adresser ou pouvoir s'adresser à tout le monde en froissant le moins possible de gens, en essayant d'uniformiser le plus possible son discours, et au final, on mécontente forcément une part parce qu'on fait voter une loi qui les rend furieux, et on mécontente l'autre part alors qu'on a fait voter une loi pour eux, entre guillemets, en disant aux gens d'en face, ah, excusez-moi, vous avez été humilié, ah mais si vous voulez pas, vous pouvez faire valoir votre clause de conscience. C'est quand même assez incroyable.
C'est le signe d'un manque de conviction, donc, tout simplement.
Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être avec Hollande, peut-être le symbole d'une génération qui a encore du mal avec ces questions-là, qui voit bien qu'il y a quand même des problèmes, qu'il faut une égalité, mais que quand même, même si on n'est pas soi-même froissé, ça peut froisser des gens qu'on connaît dans leur fort intérieur et que c'est légitime et que donc il faut pouvoir comprendre ces gens-là. Pour Macron, qui est plus jeune, qui pourtant, en tout cas, paraît être plus en phase avec la société, j'ai vraiment du mal à m'expliquer ce que pouvait signifier cette phrase-là, si ce n'est une forme de clientélisme électoral.
Mais est-ce que c'est pas, de façon générale, hein, un peu un défaut du consensus mou que représente la social-démocratie ou le social-libéralisme en général? Parce que face à ça, il y a quand même des positions fortes, idéologiquement fortes, celles de la droite notamment, qui eux sont droits dans leurs bottes, pas toujours, mais dans ce cas-là le sont en tout cas, pour défendre leurs idées, alors que face à eux, on trouve un terrain idéologiquement mou en fait, et délité très souvent. Est-ce que c'est pas un problème, donc, le problème du Parti Socialiste aussi, et du désaveu de ce parti, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un certain désaveu du Parti Socialiste auprès de l'opinion publique?
Alors moi je pense que ça vient même avant le désaveu. C'est-à-dire que cette position sur la clause de conscience, elle vient quand même au moment des débats sur le mariage pour tous, qui sont en 2013, au moment où le quinquennat, entre guillemets, se passe bien, et où il n'y a pas encore ce désaveu, ce manque de confiance. Mais on pointe clairement du doigt là un vrai problème, c'est que une gauche qui se revendique de gauche pendant les élections et qui ne l'assume plus une fois qu'elle est au pouvoir, on l'appelle ça un social-libéralisme si on veut, j'arrive pas à le définir correctement, je pense que c'est pas la social-démocratie, parce que la social-démocratie c'est autre chose. Mais si on n'assume pas ce pourquoi on s'est battu, si on n'assume pas ce pourquoi on a fait campagne, ce sur quoi on a voulu axer tout le projet, évidemment qu'en face, ceux qui sont absolument contre vont en profiter, évidemment que ça dessert ces propositions-là, et évidemment qu'au final on apparaît comme faible sur, sinon l'intégralité, en tout cas sur beaucoup de nos autres positions, si on commence à céder d'un pouce, ne serait-ce que médiatiquement, sur ce qu'on défend à la base pour toute la société. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. La démocratie, ça n'est pas s'excuser de défendre une position en disant à ceux qui sont contre, c'est vrai, vous avez peut-être raison, on n'aurait pas dû le faire. Non, il y a des pour, il y a des contre, il y a un débat nécessaire et il faut l'assumer.
Alors maintenant, on va parler un petit peu du candidat de cette année, des présidentielles 2017.
Est-ce que HES soutient Macron ou Hamon?
Alors HES soutient évidemment Benoît Hamon, d'une part parce que HES a été parmi d'autres structures membre de la Belle Alliance Populaire, qui a donc organisé ses primaires. Primaires durant laquelle il y avait une charte qui disait tout simplement, ben, on s'engage à soutenir le vainqueur. Et HES soutient tout simplement le vainqueur parce que c'est l'éthique politique et la moindre honnêteté dans la démarche qui veut ça. Et on soutient aussi Hamon sur le fond parce qu'il a réussi à faire passer tout un tas de propositions dans cette campagne qui ont permis de rejeter, on va dire, ou peut-être pas rejeter, pardon, mais en tout cas de mettre de côté ce qui avait pu nous être servi régulièrement en disant, mais avant tout, il faut parler de l'identité, avant tout, il faut parler de la sécurité, avant tout, il faut parler des problèmes économiques qu'ont les Français, et ça, c'est vrai. Mais qui parle de problèmes économiques dit aussi problèmes sociaux, et quand on déroule tout le fil, eh bien, au bout d'un moment, on parle de l'émancipation, on parle de l'égalité, on parle de l'accès aux droits sociaux, et ça vaut aussi bien pour la majorité de la population que pour les personnes LGBT. Et au-delà de ces propositions, il y a également dans le projet de Benoît Hamon des thématiques qui sont spécifiques aux personnes LGBT ou dans lesquelles on peut se retrouver facilement, que HES défend et pour lequel HES est évidemment prêt à faire campagne pour Benoît Hamon.
Donc la PMA, la GPA, quelles sont les positions?
Alors pour la PMA, il est évidemment pour, à la fois pour les femmes en couple, donc les couples de lesbiennes, et pour les femmes célibataires. Et pour la GPA, Benoît Hamon est contre, mais ça c'est l'intégralité du spectre politique français qui aujourd'hui se prononce contre la GPA. C'est un sujet sur lequel même le mouvement LGBT est aujourd'hui divisé. Hein. L'inter-LGBT n'a pas de position commune sur ce sujet. Les associations se retrouvent souvent à débattre, peut-être de manière trop virulente d'ailleurs, sur un sujet qui est complexe, qui est souvent mal présenté, qui est souvent malheureusement réduit à sa dimension LGBT. la GPA, le fait d'avoir recours à une GPA pour obtenir une maternité ne concerne pas majoritairement les personnes LGBT. Et ça ne doit pas être du fait des personnes LGBT que ce débat-là soit débattu dans la société et soit pris en compte par les pouvoirs publics.
Merci Lénie,
secrétaire d'État,
d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation, bonne campagne électorale, et puis bonne fin de printemps des associations. Voilà, donc toujours au printemps des associations à Paris, je suis au stand de Guélib. Je suis avec
Rémi, président délégué de Guélib.
Alors, Guélib existe depuis combien d'années maintenant ?
Donc Guélib existe depuis 2001. Nous étions constitués au sein de Démocratie Libérale. On est allé à l'UMP. On est maintenant à l'UDI depuis 2013. On est fiers de représenter les valeurs démocrates et libérales. Et nous sommes toujours là, toujours sur le terrain.
Il y a eu un divorce avec l'UMP à une époque quand même.
Exactement.
Dû à quoi ? Je suis surpris.
Tout simplement les valeurs trop conservatrices de l'UMP.
Ces valeurs-là, elles sont toujours portées par le candidat Fillon, par exemple.
Alors, exactement.
Vous n'appelez pas à voter pour François Fillon aussi ?
Il est hors de question qu'on appelle à voter pour un candidat qui veut revenir sur la loi Taubira, tout ou en partie.
Alors, voilà. Quand on vous dit comment on peut être homo, LGBT et de droite, on a dû souvent vous le demander, ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, le fait que vous avez le droit d'être ce que vous voulez, de penser ce que vous voulez.
Déjà, on a le droit d'être ce qu'on veut, déjà. Mais avant d'être de droite, on est surtout centriste. Je pense que le libéralisme, le fait de penser à la liberté ou à l'humanisme, le fait que tous les humains doivent être traités dignement, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste du bon sens. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un simple clivage. Ensuite, on a le droit d'être gay et de penser qu'on peut développer l'économie de marché, qu'on peut développer toute autre dimension de la politique sans être forcément dans un carcan. La preuve, il y a des gays de gauche, il y en a des écologistes, des communistes, socialistes, il y a aussi des gays de droite, tout simplement.
Mais il paraît que cela existe.
Il y en a même au FN, il paraît.
La preuve, il y en a même au Front National. D'ailleurs, il n'y a pas de stand Front National, j'ai remarqué.
Il n'y a pas de stand Les Républicains non plus.
Il n'y a pas de stand Les Républicains, effectivement. Donc vous êtes maintenant avec l'UDI, c'est ça ? Quel est votre candidat pour les élections, alors ? Qui soutenez-vous ?
Nous n'avons pas de candidat pour le premier tour, tout simplement. Nous faisons le choix de nous concentrer sur les valeurs de fond.
Et si je vous pose des questions sur les différents candidats, vous pouvez me répondre quand même. Genre, que pensez-vous de Macron ? Que pensez-vous d'Hamon ? Par rapport aux droits LGBT ?
Curieusement, avec messieurs Macron, une fois qu'il s'est ravisé, et monsieur Hamon, nous avons des points en commun. Nous sommes pour la PMA pour toutes. Nous sommes pour la déjudiciarisation et la démédicalisation du changement d'état civil pour les personnes trans. Toutes sortes de choses qui sont communes à beaucoup, voire la totalité des associations LGBT en fin de compte.
Vous pouvez penser qu'il y avait un courant économique de droite justement qui serait plus libéral par rapport tout simplement au pouvoir d'achat des LGBT par exemple, de vouloir un peu attirer le pouvoir d'achat des LGBT vers des entreprises, un peu comme aux États-Unis par exemple, dans un cadre d'économie libérale. Mais il se trouve que la droite française, elle, est vraiment très conservatrice, même si elle est entre guillemets idéologiquement pro-capitaliste, on va dire, pour résumer, c'est aussi une droite conservatrice. Or, on dit qu'il existe une droite libérale, justement, dans le sens où elle pense que l'économie capitaliste peut aussi favoriser les droits des LGBT. Mais ce n'est pas ce qui se passe en France. La droite n'a pas ce positionnement en France.
C'est exactement ça. Nous pensons qu'en étant libéraux et humanistes, nous pouvons être libéraux sur les sujets économiques, mais aussi sur les sujets sociétaux. Et pour moi, et ça c'est vraiment ma conception de la liberté, il faut pouvoir développer son entreprise tout en protégeant les humains, mais aussi l'environnement. C'est un triptyque essentiel.
Merci en tout cas, Guélib. Merci Rémi. Et bonne continuation pour la fin du salon qui se tient encore donc aujourd'hui le 25 mars et demain le 26 à Paris. Alors je suis avec un représentant de l'association Centre Ego. Si vous voulez vous présenter déjà.
Donc Centre Ego, l'association des centristes et démocrates LGBT, fondée en 2006 à l'origine au sein de l'UDF. Donc un vieux mouvement politique pas très LGBT friendly, avec un objectif, faire évoluer la famille politique qui était la nôtre à l'époque, centriste, de gauche, de droite, sur les questions LGBT, pour un principe assez simple, égalité de tous et de toutes en droit et en devoir, qui a ensuite évolué au sein du mouvement démocrate, avec sa constitution en 2007, et qui, depuis maintenant plus de 10 ans, travaille sur ce sujet-là avec les cadres, avec les élus, pour que les questions qui nous concernent soient bien prises en compte de façon appropriée dans les prises de position, dans les programmes. Voilà. Et qui, dans le cadre de cette élection présidentielle 2017, après la proposition d'alliance faite par François Bayrou fin février, et son acceptation par Emmanuel Macron a fait le choix, la majorité de son CA, de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron et de demander à ses adhérents et à ses sympathisants de s'engager dans cette campagne pour qu'Emmanuel Macron soit bien entendu au deuxième tour et élu président de la République.
Alors, l'association Centre Ego, vous disiez, existe depuis 11 ans maintenant. Et on a. Bon, je suis désolé, ça vous a peut-être un petit peu vexé ce que je vous ai dit, mais c'est vrai qu'on entend moins parler de Centre Ego que de HES ou que de Guélib, par exemple. Centre Ego semble faire moins de vagues. Néanmoins, maintenant, Guélib, qu'on vient d'interroger, nous disait qu'il s'était positionné plus au centre. Ils étaient donc avec l'UDI. Est-ce qu'il n'y a pas donc double emploi entre Centre Ego et Guélib?
Écoutez, nous, il se trouve que nous avons des adhérents issus du MoDem, qui ne sont plus au MoDem, de l'UDI, qui ne sont plus à l'UDI. Donc une large palette de centristes. La famille centriste, elle a toujours été complexe et elle est toujours complexe. Donc il se trouve qu'il n'y a pas double emploi, puisqu'il y a des origines et des objectifs un peu différents. Une raison pour laquelle probablement on parle un peu moins de Centre Ego, c'est que notre travail, on le fait, j'ai l'habitude de dire, en sous-marin. Puisqu'on agit au sein du parti et que la fonction médiatique n'est pas ce que nous avons jamais recherché. Et ce n'est pas ce qu'on recherche de toute façon. On préfère travailler sur le fond des choses avec qui de droit en interne de notre famille politique. Voilà.
Et par rapport à Emmanuel Macron, donc, que vous soutenez, est-ce qu'Emmanuel Macron est tout à fait réceptif aux revendications actuelles des LGBT, des personnes LGBTI, on va dire même?
Alors sur les questions principales qui nous concernent, LGBTI+, et plus, voilà. Donc il s'est prononcé pour la reconnaissance de la filiation pour les enfants issus de la GPA nés à l'étranger. Il s'est par ailleurs prononcé pour les questions de filiation au sens large du terme. Et puis sur les questions d'homophobie, il est plus que réceptif. Un peu plus tôt dans l'après-midi, nous avions la chance d'avoir son porte-parole, Benjamin Griveaux, qui est passé pendant ce printemps des assos et qui notamment a longuement échangé avec le refuge SOS homophobie, FLAG et d'autres sur les questions liées au travail et à la société au sens large du terme. Donc Emmanuel Macron est totalement réceptif, et plus que réceptif, puisqu'il est proactif, en tout cas pour ce qu'il propose est empreint de proactivité sur les questions qui nous sont propres.
Alors, un des défauts du centre, je dirais, c'est de vouloir un petit peu concilier plusieurs opinions, parfois divergentes. Alors, il se trouve que Macron, enfin, peut-être vous allez parler soit au nom de l'association Centre Ego, soit à votre nom propre, a récemment soulevé une petite tempête dans un verre d'eau dans les associations LGBT et tous ceux qui sont réceptifs aux droits LGBTI, en déclarant que la Manif pour tous avait été maltraitée par la présidence Hollande, par le gouvernement Hollande. Et ça a fortement déplu à de nombreux militants LGBTI. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Pourquoi a-t-elle été faite? Qu'est-ce que Emmanuel Macron recherche dans ce cas-là, à part ratisser le plus large possible, en fait?
Donc sur cette question, à titre personnel, je pense que c'était une maladresse de la part d'Emmanuel Macron, mais il s'en est expliqué depuis. Donc nous avons tourné la page sur cette maladresse.
Ben merci en tout cas d'avoir accepté de nous répondre. Et donc Centre Ego, l'association des centristes, démocrates, lesbiennes, gay, bi, trans et gay friendly qui soutiennent donc Emmanuel Macron.
Je m'appelle Jean-Charles Allemand et je suis un des responsables de ce qu'on appelle l'équipe du livret thématique Droits nouveaux des personnes LGBTI, qui est la déclinaison programmatique à la fois qui concerne les questions dites LGBTI, mais qu'on essaye de recadrer dans la question générale des droits des personnes comme vraiment une réécriture des droits humains, puisqu'on porte la 6ème République. Donc quand on porte la 6ème République, on s'interroge, bien sûr, on dit qu'on abolit la monarchie présidentielle, on s'intéresse à l'Assemblée, mais on réfléchit à tous les droits qu'il y a dans une constitution. Et donc c'est pour ça que on envisage les droits humains d'un point de vue à la fois universel, mais qui puisse répondre à toutes les questions concrètes qui ont émergé des combats LGBTI de ces dernières années et qui ne s'arrêtent pas à l'obtention du mariage par la loi Taubira.
Alors on voit sur le stand beaucoup de petites affiches très gay-friendly en fait. Hein. Donc Mélenchon serait-il le candidat le plus gay-friendly de ces élections présidentielles?
Vous allez me dire oui.
Non, mais ça m'intéresse pas de dire oui d'une façon facile. Moi, ce que j'ai plutôt envie de convaincre, c'est sur des positions de fond. Et après, bah, chacun se positionnera et si ça les intéresse ou pas. Quand on écrit noir sur blanc pour les personnes trans, qu'on est pour le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil en mairie, bah, peut-être tout le reste qu'on est plus trans-friendly que gay-friendly, hein, parce que dans LGBTI, il n'y a pas que le G. D'autre part, on veut poser la question des intersexes, personnes intersexuées, notamment pour mettre fin aux mutilations des enfants à leur naissance, tout simplement parce qu'on est dans des schémas aussi binaires du sexe et du genre. Et donc là aussi, je pense que c'est ces questions-là aussi maintenant qu'il faut poser, parce que l'égalité des droits reste importante et reste une donnée universelle. Mais ça a tellement été incarné par le mariage pour tous que maintenant le mouvement LGBT a beaucoup du mal à se repositionner sur d'autres éléments. Or, si vraiment on veut penser les réformes de société à faire, les nouveaux projets de société, nous on dit que c'est l'émancipation, alors après chacun met ce qu'il veut derrière ce mot émancipation, mais c'est des fois penser effectivement la question du genre, la question des intersexes, et finalement aborder aussi par exemple la PMA pour toutes, une des promesses qui n'a pas abouti pendant ce quinquennat. Certes, on peut dire une femme lesbienne, si elle est en couple avec un homme, elle peut faire une PMA, mais pas avec une femme. Donc certes, c'est une question d'inégalité, mais c'est grosse. Nous, on le rapproche quasiment plus à la question de la maîtrise du corps des femmes, et pour nous, c'est le pendant de l'IVG, le droit à la PMA. Donc c'est aussi comme par ce biais-là qu'on veut poser les choses.
Donc France Insoumise est pour une législation spécifique pour la filiation des couples de même sexe, par exemple. Pour la PMA, la GPA également, je ne sais pas.
Nous ne sommes pas favorables à la GPA parce que dans les systèmes actuels, on pense que c'est une forme de marchandisation du corps des femmes. Par contre, on ne veut pas que les enfants subissent leur mode de procréation qu'ils n'ont pas choisi. Les bâtards, on a connu ça, les bâtards qui n'avaient pas les mêmes droits alors qu'ils n'ont pas choisi la façon dont ils sont venus au monde. Après, un enfant né par GPA, quoi qu'on pense de la GPA, l'enfant lui ne l'a pas choisi. Donc on ne veut pas de discrimination de ce côté-là. Et par contre, on est sur une réforme globale de la filiation à travers le principe de la reconnaissance, c'est-à-dire le principe qui prévaut quand on est en concubinage ou qu'on n'est pas axé, et qu'on peut dire que le père va en mairie pour reconnaître. Et c'est pour ça que, parce que la question s'est posée par rapport à la présomption dans le cadre du mariage. Et nous, on pense que singer la présomption de paternité, y compris quand il y a deux femmes qui ont fait une PMA, finalement, ça ne répond pas à la question. Et on préfère plutôt un régime universel qui met vraiment en évidence que finalement, la filiation, ce n'est pas le lien biologique, mais c'est le lien d'engagement parental. Et quelque part, on aura aussi beaucoup avancé si on place le débat sur la filiation au niveau du lien et de l'engagement parental, et pas essayer de faire de la pseudo-biologie.
Alors pour terminer, pour conclure notre petit entretien, alors quels sont vos espoirs pour ces élections?
Tout simplement.
À part que Mélenchon soit second tour et remporte le trône présidentiel.
Oui, alors le trône présidentiel parce qu'on est en monarchie présidentielle, donc
afin, c'est pour ça que je dis ça.
Donc c'est bien pour qui remporte afin qu'il puisse convoquer une constituante et qu'effectivement tous ses droits soit vraiment au niveau de la Constitution, bon, certains sont plus d'ordre législatif, hein, mais que, en tout cas que les débats aient lieu dans le cadre de l'Assemblée constituante. Ben, oui, que peut-on demander de plus effectivement que de viser la victoire de l'élection et qui passe effectivement par la qualification par le second tour. Après, ben, écoutez, on évacue. Certes, on a un bilan critique par rapport aux promesses non tenues sur beaucoup de sujets du quinquennat actuel. Hein, je veux dire, une fois de plus, le mariage pour tous ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de différents sujets non traités ou mal traités pendant ce quinquennat. Après, on n'ignore pas d'autres types de périls qu'ils peuvent avoir par rapport notamment aux droits humains en général et aux personnes LGBT en tant que telles. Mais on connaît que pour nous, c'est vraiment en étant offensif, en étant sûr du projet qu'on porte, que pour nous, on peut être cohérent vis-à-vis de la société française et vis-à-vis des personnes qui vivent ici, qu'elles soient françaises ou non, du reste.
D'accord. Merci d'avoir accepté notre petit entretien et bonne continuation, bonne campagne présidentielle.
Voilà, c'est donc le terme de notre émission d'aujourd'hui. On vient donc d'entendre le reportage réalisé à Paris au printemps des associations. Et en première partie de l'émission, Jeffrey Jordan nous a réalisé un reportage, donc on l'a vu sur la web-série Les Engagés, laquelle, donc on l'a dit, sera diffusée autour des dates de la marche des fiertés. Et puis, je voudrais donc rappeler que Jeffrey Jordan, qui est aussi et avant tout un grand humoriste lyonnais, mais qui voyage partout en France, se trouve actuellement à Lyon, donc, jusqu'au 8 avril au Complexe du Rire, avec son spectacle qu'il a rendu célèbre, Jeffrey Jordan s'affole. Ensuite, on le retrouvera dans différents lieux en France. Je vous incite à aller sur son site internet, jeffreyjordan.jimdo.com, pour avoir les dates. Je vous remercie de votre attention. Et je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. En attendant, bonne soirée et bonne fin de semaine.
Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.